Merci beaucoup. J'aimerais inviter Marie-Ève de partager ses réflexions concernant ces questions aussi. Marie-Ève.
Merci. Discussion très passionnante, je trouve. Donc, je vais rebondir peut-être sur l'expression que j'ai bien aimée là, de Christophe, là, de l'idée de faire communauté politique comme horizon. Évidemment, moi, j'abonde dans ce sens. Là. Je pense pas que la prochaine mouture de la loi sur les langues officielles nous amène tout à fait dans cette direction-là, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des éléments à notre portée qui pourraient être mis en place pour favoriser quand même une gouvernance plus cohérente et plus porteuse là, des communautés francophones. Notamment, les communautés vont développer, par exemple, un plan stratégique communautaire, mais en marge de ça, ben, ils vont développer aussi un plan d'action communautaire en lien avec l'immigration. Alors, vous pouvez bien imaginer qu'à chaque fois, ça mobilise beaucoup de personnes, tout plein d'idées. Ça se fait en silo parce que les ministères travaillent en silo. Alors, on peut imaginer très bien qu'il y a une manière, il y aurait certainement une gouvernance plus concertée au niveau fédéral qui amènerait une économie des énergies, puis aussi plus de cohérence même au niveau communautaire, parce que pour l'instant, là, ça fait comme ça petite une multiplication des organismes, des énergies, des idées, etc. Ça peut créer des conflits, puis un désengagement même éventuellement. Alors, il y a ça, puis je trouve que la nouvelle... Je reviendrai pour la troisième question, mais la nouvelle initiative du ministère des Migrations là, sur les communautés francophones accueillantes aborde de plein fouet l'idée de la vitalité, même si on le nomme pas tant que ça. Tu sais, c'est un peu en trame de fond, mais c'est le projet là, le plus près là, de ce qu'on peut imaginer d'un projet de plus typiquement patrimoine canadien, là. Mais les ponts entre ces deux ministères-là pour entre tout ce que fait, mettons, patrimoine au niveau de la vitalité, puis cette initiative-là qui pourrait venir donner une petite twist différente là, à l'idée de la vitalité, parce que là, on amène la question de l'accueil qui est une super belle façon de voir les communautés francophones, de les voir accueillantes au-delà des personnes immigrantes. Hein. Pour une personne francophone, peu importe, qui aurait fait un décrochage culturel, tu sais, l'idée de l'accueil convient à beaucoup plus de personnes que les nouveaux arrivants. Là. Alors, il y a quelque chose, je pense, des ponts à établir là, à partir de ces idées-là. Mais je voulais aussi aborder pour cette question une réflexion que j'ai entamée dans le cadre d'une étude qu'on avait fait, Guillaume Deschênes-Thériault et moi, sur le postsecondaire, puis c'était sur la question... Peut-être globalement, on peut appeler ça la résilience, mais dans le fond, ce que je voulais mettre en lumière, c'est que souvent, dans le bagage conceptuel qu'on a eu pour les communautés francophones, on a parlé justement d'épanouissement, de développement, de vitalité, et peut-être des fois, on a négligé l'importance de regarder ce que sont les facteurs de vulnérabilité des communautés francophones qui sont justement en situation minoritaire, ce que sont les facteurs de protection, donc le corollaire, si on veut, là, de la vulnérabilité. Et donc, des communautés, mais aussi de la langue française dans nos institutions. Et en regardant l'état du postsecondaire qui vit beaucoup d'enjeux, on peut bien voir que si on avait peut-être travaillé un petit peu plus les fondations, plutôt que d'aller tout de suite parler d'épanouissement, de développement, peut-être que nos institutions seraient dans un état différent, du moins les établissements postsecondaires, mais je pense à d'autres institutions aussi, là. Alors, cette dynamique-là me semble intéressante que des fois, tu sais, qu'on recadre un petit peu les réflexions au niveau de la vitalité. Puis ça, ben, ça concerne évidemment l'ensemble des ministères, là, mais je voulais aborder cette idée-là qu'on a commencé à travailler, mais qui gagne à être approfondie à mon avis.
Merci beaucoup. Et on donne les derniers mots, les dernières réflexions à Nathalie Picmal pour concernant ces questions des institutions et des communautés francophones. Nathalie, c'est à vous.
Merci. Je partage beaucoup de ce qui a été dit. J'ai bien aimé la notion de développement par rapport aux communautés, puis la notion de projet humain qui dépasse effectivement les silos et les cases. Dans les écoles du Manitoba, cette notion de franco-manitobain, d'identité franco-manitobaine, beaucoup d'immigrants disent aussi, je ne me reconnais pas dans ces événements-là, dans ces activités-là. Je pense qu'on peut commencer, enfin moi j'aimerais commencer à réfléchir un petit peu à la notion de projet de société commun et puis apporter quelques éléments critiques sur la notion de vision. Donc, la notion de projet commun, projet humain, c'est un projet où, je pense, on est d'accord qu'on peut vivre bien ensemble avec nos différences, une société où chacun se sent chez soi. Et la question, c'est comment est-ce qu'on se sent chez soi dans la différence? J'aimerais commencer déjà par dire, de mon point de vue, je trouve que la notion d'intégration a une connotation passive, dans le sens où j'arrive dans un nouveau milieu, on m'accueille gentiment, j'apprends les normes sociales de ce nouveau milieu et je m'adapte. Pour moi, ce n'est pas un projet de société commun. Un projet de société commun repose sur un principe de fluidité, comme ça a été mentionné, et de changement, comme ça a été mentionné aussi, donnant aux nouveaux arrivants l'opportunité de changer les choses. Donc, si on prend le cas des écoles, par exemple, le meilleur témoignage d'accueil qu'on puisse faire, c'est celui d'ouvrir les programmes scolaires à un regard critique, justement, pour dépasser complètement les silos et la manière communautariste de faire les choses. En ce qui concerne, on parle aussi beaucoup d'inclusion, les nouveaux arrivants, d'inclusion en milieu francophone minoritaire. L'inclusion, on ne la regarde jamais, rarement, avec un regard critique. C'est quelque chose on part du principe que c'est quelque chose de désirable. L'inclusion, c'est un côté un petit peu passif aussi. Moi, j'aimerais introduire plutôt la notion d'hospitalité, comprise dans le sens où la personne qui accueille accepte aussi que les gens qui arrivent changent l'environnement, parce que pour se sentir bien chez soi dans la différence, la seule façon de se sentir bien, c'est de pouvoir changer l'environnement dans lequel on arrive. Ça passe par la mise en place de structures d'accueil, bien sûr, mais ça passe aussi par des approches qui permettent justement ce changement-là. Donc, si je suis chez moi, ça veut dire que je peux modifier mon environnement, ma maison, pour me sentir chez moi. Je peux choisir ma façon de vivre. Il en va de même dans les communautés. Dans le domaine de l'éducation, les initiatives multiculturelles se multiplient pour les immigrants, de même que les activités liées, mais elles restent toujours fermées sur des silos et puis sur des concepts qui restent historiques, mais qui ne prennent pas en compte la fluidité des mouvements migratoires actuels. Ce qui veut dire que les jeunes ne se sentent pas chez eux pour autant. Là-dessus, je pense que je vais finir sur je pense la même idée que j'avais apportée un petit peu au début, c'est l'importance d'avoir pour les CFSM, d'avoir des porte-paroles qui représentent la jeunesse immigrante francophone dans les écoles, dans la communauté, de mettre l'accent sur des organismes qui sont susceptibles de bâtir des ponts avec les écoles pour aller au-delà des activités culturelles et vraiment englober des opportunités de changement de l'environnement social, l'environnement éducatif. Autrement, le sentiment d'appartenance ne pourrait vraiment avoir lieu.
Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous avons déjà discuté un petit peu la vitalité des CFSM, mais pour les dernières questions que nous voulons discuter cet après-midi, ces questions portent très directement sur des questions de vitalité. Alors, les questions sont: plusieurs initiatives récentes ont pour but de soutenir la vitalité des CFSM. Quelles sont les retombées? Comment les évaluer? Néanmoins, pour véritablement assurer la vitalité de la francophonie canadienne, ne devrions-nous pas également songer à soutenir la vitalité culturelle des populations issues de l'immigration qui deviendront des nouveaux membres de nos communautés? Y voyez-vous un besoin auquel il faudrait répondre afin d'assurer la vitalité francophone? Et si oui, comment procéder? Sinon, pourquoi pas? Et pour commencer cette discussion, je vais tourner à Yaro pour lancer cette partie de la discussion. Yaro.
J'aime beaucoup cette question pour de nombreuses raisons. Et je m'attarder sur certains points spécifiques. Déjà, on parle de vitalité. Mais c'est quoi la vitalité? On dit la vitalité, c'est l'aptitude à produire des résultats nombreux et importants. On l'a, cette vitalité. On en produit des résultats nombreux et importants. Mais Est-ce que ces initiatives sont structurantes, surtout à long terme? C'est l'une des réalités que moi je constate, en tout cas à mon humble avis, c'est la temporalité de ces initiatives-là, qui se retrouvent très souvent liées à du financement disponible d'année en année, ce qui, au final, crée une incertitude, mais aussi une inaptitude à se projeter dans le futur pour beaucoup de ces initiatives-là. Donc, on se retrouve à avoir une dépendance au financement, qui, encore une fois, se retrouve liée à une réalité politique, dont que Christophe a mentionné, où on n'a pas nécessairement de pouvoir. Donc, dépendamment de quel parti est au pouvoir aux élections, les communautés en situation de langue officielle vont commencer à se gratter la tête et se dire, est-ce qu'on va être capable de réussir à faire nos activités comme on a l'habitude de le faire? Est-ce qu'on va avoir des coupures dans nos budgets, dans nos budgets de fonctionnement, dans nos budgets de projet? Donc, c'est une réalité qui est très importante si on veut parler de vitalité, si on veut parler de vitalité de la francophonie canadienne aussi, c'est de faire les barrières, parce qu'il y a aussi les limites territoriales qui viennent jouer. On le constate, la SODEC a du financement pour le Québec, l'Ontario Créatif a du financement pour l'Ontario, et très souvent, c'est difficile de dépenser du financement d'une province pour aller vers une autre lorsque tu fais tes rapports, et on le voit. Alors, lorsqu'on va essayer d'avoir cette conversation-là, ironiquement, j'avais cette conversation avec quelqu'un du Québec il n'y a pas longtemps qui disait, cette réalité territoriale, par exemple, entre l'Ontario francophone et le Québec, ça devient du mandat de patrimoine canadien. Donc, il faut aller vers patrimoine canadien pour essayer, qui va donner du financement à des organismes nationaux comme Musique Action pour financer des projets. Mais il faut aller vers patrimoine canadien pour faire comprendre que, écoutez, malgré cela, on a encore ces limites qui viennent s'instaurer parce que le financement reste territorial. Quelqu'un du Québec qui veut travailler avec quelqu'un de l'Ontario ne va pas nécessairement avoir accès à ce financement-là parce que c'est pour la francophonie canadienne. Donc, pour moi, c'est une réalité importante à avoir lorsqu'on parle de vitalité de ces communautés-là. C'est est-ce qu'on est en train de bâtir des projets? Est-ce qu'on est en train de créer des initiatives et bâtir des projets qui sont structurants? Parce qu'on peut faire un événement et mettre énormément de résultats qu'on a réussi à faire un événement, mais dans 2 ans, dans 3 ans, cet événement-là n'existe plus. Et aussi, lorsqu'on parle d'intégration, comment est-ce qu'on valorise les cultures, justement, des populations qui sont issues de l'immigration? Est-ce que c'est strictement dans le cadre, comme on le voit souvent, est-ce que c'est strictement dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, par exemple, qu'on va faire énormément d'événements pour valoriser, mais on n'en parle pas nécessairement dans les salles de classe, on n'en parle pas de cette culture-là, on n'a pas nécessairement la chance de le partager, outre ces mesures très carrées qui sont mises en place durant des moments très spécifiques. Je donne un exemple très personnel. Moi, au début de ma carrière, je refusais strictement de faire des spectacles durant le mois de l'histoire des Noirs parce que j'estimais que c'était le seul moment où j'étais invité à faire un spectacle. Et par la suite, j'ai fini par dire « Bon, je vais utiliser cette plateforme pour avoir ces discussions-là et je vais m'en amuser en commençant mes spectacles en disant « Je déteste le mois d'histoire des Noirs. Pourquoi est-ce que vous résumez toute mon histoire à un seul mois, le mois le plus court de l'année et le plus froid de l'année ?» En juin, je suis quand même artiste de la diversité culturelle. C'est pas juste en février. Donc, est-ce qu'on peut avoir ces conversations-là aussi en juin? Or, c'est cette réalité-là, justement, en termes des initiatives qui vont être mises en place, qui, encore une fois, vont être très communautaristes, comme l'a mentionné Nathalie, où on va dire, bon, voilà, à ce moment-là, on va en parler, mais le reste du temps, et ce n'est pas sur la longévité. Ce n'est pas sur la longévité que ces initiatives-là sont mises en place. Très peu d'initiatives, en tout cas, réussissent à avoir du financement sur la longévité et se projeter sur 10 ans, sur 15 ans. À la rigueur, ils vont obtenir du financement sur 5 ans. Et après 5 ans, que se passe-t-il? Le financement disparaît ou le projet a abouti à sa fin et il n'y a pas de suite, en fait. Donc, on a réussi pendant 5 ans à faire quelque chose d'intéressant, mais on n'a pas réussi à mettre en place les fondations de quelque chose de beaucoup plus solide qui va venir jouer sur le processus d'intégration des francophones, des communautés ethnoculturelles.
Merci beaucoup. J'invite Nathalie de partager ses réflexions concernant des questions de vitalité aussi. Nathalie.
Merci beaucoup. Dans le milieu de l'éducation, la notion de soutien de la vitalité culturelle, c'est en général quelque chose qui est réussi selon le point de vue des enseignants, mais c'est quelque chose de vraiment problématique parce que c'est quelque chose qui permet de maintenir le status quo par rapport justement aux initiatives qui seraient plus structurantes, pour reprendre le terme mentionné. En effet, soutenir la vitalité culturelle des populations issues de l'immigration, c'est le projet même du multiculturalisme qui se reflète ou qui essaie de se refléter dans toutes les couches de la société. Par contre, de mon point de vue, l'enjeu se situe moins sur le soutien de la vitalité culturelle, même s'il reste important, et davantage sur une approche d'équité et de justice sociale pour des initiatives qui sont structurantes dans le sens susceptible de changer le système. Le problème, justement, c'est que la vitalité culturelle est souvent comprise comme accroître les activités multiculturelles, en tout cas en milieu éducatif, tout en gardant le status quo pour ce qui est des programmes d'études, la reconnaissance des diplômes pour les immigrants qui arrivent, etc. En fait, malgré les politiques nationales de multiculturalisme, on remarque quand même que le communautarisme ethnique fait partie de l'histoire canadienne. Et il y a donc cette notion de stratification culturelle qui est susceptible d'entraver le processus de mobilité sociale et qui risque aussi de servir d'outil de contrôle social pour la société dominante, qui continue par exemple à marginaliser les gens qui ont des diplômes qui viennent de pays étrangers. Donc, ainsi, l'appartenance ethnique, la langue parlée, ainsi que l'accent qui va avec, ressortent comme des facteurs qui entravent le sentiment d'appartenance. Alors, si d'un côté, on valorise les cultures des gens ou des jeunes dans les écoles, mais d'un autre côté, quand les élèves se sentent rejetés d'un groupe de travail parce qu'on leur reproche leur accent qui n'est pas assez français ou qui n'est pas assez anglais, ces activités culturelles, elles ne vont pas bien loin au niveau du sentiment d'appartenance. Si je peux citer mon cas, justement, moi, j'ai un accent qui me donne du privilège. Quand je parle anglais avec un accent français, j'enseigne en anglais, et personne ne m'a jamais reproché de ne pas me comprendre. Par contre, j'ai une collègue qui vient de Sierra Leone, qui enseigne avec un accent, on dirait, racialisé, dont l'anglais est bien meilleur que le mien, mais qui se retrouve constamment jugée dans les évaluations de ses étudiants par rapport à ça. Donc, pour elle, le fait de valoriser les traditions culturelles, si on ne met pas en place quelque chose qui permet de remédier à des situations d'exclusion et de marginalisation, ça ne va pas très loin, en effet. Alors, quand on pense à la notion de soutien de la diversité culturelle, je pense qu'on est bien d'accord que ça doit dépasser l'aspect folklore, danse, musique pour véritablement englober des possibilités de mobilité, de refaire, de reformuler les programmes scolaires. De mon point de vue, pour procéder, on peut commencer à prendre exemple sur les efforts qui ont été faits autour de la réconciliation avec les communautés autochtones et vraiment partir du vécu des immigrants, reconnaître les politiques systémiques d'exclusion qui sont encore en fonction à l'heure actuelle, les déclarer sans gêne comme incompatibles avec un projet de société inclusif, juste et équitable, et poursuivre une approche appréciative, non fondée sur le déficit, comme ça l'est fait à l'heure actuelle, sur la façon de juger les diplômes acquis à l'extérieur, mais donc sur une approche appréciative, de sorte à reconnaître les forces, pour enfin réformer les diverses strates de la société, programmes scolaires, politiques d'immigration, etc., de sorte à ce que les gens qui arrivent aient une chance finalement de... non pas seulement de se sentir chez eux, mais de se sentir valorisé dans la communauté. Je vais finir sur ça. Je sais pas, je n'ai pas mesuré mon temps, mais...
Mais ça va, ça va, c'est parfait. Merci. Merci. Prochainement, je laisse la parole à Christophe. Christophe, c'est à vous.
Alors, merci. J'ai trouvé très intéressant justement ce qu'ont dit mes prédécesseurs, et notamment à la lecture ou du moins à l'écoute de Yaovi, on s'aperçoit que nos gouvernances communautaires sont bien loin d'être gouvernantes, en fait. C'est ça le problème peut-être de la gouvernance communautaire francophone, c'est qu'elle n'est pas gouvernante. Il y a eu beaucoup d'initiatives entourant la vitalité pour reprendre sur la notion de vitalité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans chaque secteur, mais justement circonscrit à ces secteurs. Et donc décidé en fonction, non pas nécessairement des priorités des communautés, mais bel et bien en fonction des priorités de l'État. Et c'est en fait des politiques fédérales, et donc il faut servir l'intérêt de l'État. Encore une fois, on ne peut pas le reprocher à l'État canadien, comme on dit, il joue sa game, mais c'est pas nécessairement des politiques communautaires. Voilà. On en voit les limites d'ailleurs. Hein, le récent rapport du commissariat aux langues officielles sur la non-atteinte de la cible, pourtant âprement débattue et reportée d'ailleurs à travers les débats avec les communautés, le montre. On est encore une fois bel et bien face à une gouvernance gouvernante qui décide au nom et à la place de la gouvernance communautaire. Donc là, il y a un réel problème, à mon sens. Le paradigme vitalitaire, c'est en fait considérer les communautés à travers d'abord et avant tout leur dimension démolinguistique. C'est-à-dire, c'est essentiellement, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec la notion de vitalité linguistique et de vitalité communautaire, c'est une démarche essentiellement comptable, assez limitée, et qui a tendance finalement à nous conduire à instrumentaliser les chiffres, notamment les données, et puis hein, c'est la fameuse histoire de que nous disent les chiffres. Et est-ce que les chiffres sont bons? Si les chiffres sont bons, la vitalité est bonne. Si les chiffres ne sont pas bons, la vitalité n'est pas bonne. Mais on s'en aperçoit bien en matière d'immigration francophone. Ce n'est pas si simple que ça. Et Yaouvi l'a très, très bien dit aussi tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous êtes francophone en Saskatchewan d'origine immigrante que vous allez vous sentir nécessairement appartenir à une communauté françaisoise. C'est la même chose en Acadie. Et c'est normal, on ne peut pas du tout le reprocher. Au contraire, aux nouveaux arrivants. C'est comme ça. Une communauté, c'est autre chose qu'un groupe de locuteurs. C'est bien plus que ça. C'est finalement quelque chose qui concerne trois grandes dynamiques. Enfin, moi, je repère comme ça, et on peut définir une communauté à travers ces trois dynamiques. Une dynamique de reconnaissance, c'est-à-dire c'est le regard porté par l'autre sur soi, et ça, c'est essentiel. Et ce regard porté par l'autre sur soi, il passe par la reconnaissance d'institutions, de statuts, de normes, de droits, droit individuel, droit collectif, la capacité aussi à porter une parole publique, la capacité à être autonome. Et Yaouvi l'a montré dans son intervention, c'est difficile d'être autonome quand financièrement vous êtes tenu par des redditions de comptes annuelles à l'égard d'un certain nombre de financeurs publics. Ce n'est pas une situation saine pour entretenir le faire communauté dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, dynamique de reconnaissance de la part de l'autre et de la part de la société dans laquelle on évolue quand on est une communauté. Deuxièmement, dynamique de revendication. Une communauté, c'est aussi des acteurs communautaires qui sont capables de proposer une lecture de certaines différences culturelles, linguistiques, régionales, religieuses, peu importe, pour proposer un discours de distinction. Nous ne sommes pas pareils que les autres. C'est pas nécessairement un discours ou un processus excluant, au contraire. C'est une dynamique d'affirmation de soi pour pouvoir justement exister au sein de cette société. Donc, construction politique d'identité communautaire, extrêmement poreuse par définition, une identité communautaire est de toute façon très poreuse, hein, marquée par le changement en permanence, et donc susceptible d'ouverture à la diversité et au changement. Et troisième dynamique, une dynamique de représentation. Tout simplement parce que les personnes qui sont embarquées dans l'identité communautaire, qu'on dit, vous êtes francophone, ils imaginent la communauté et c'est à eux justement à porter ce travail, ce processus d'imagination de la communauté. Et là aussi, ce processus d'imagination, il est en perpétuel changement, perpétuelle évolution, perpétuelle transformation et il est très poreux, très ouvert à la diversité. Voilà. Donc, l'accroissement de la vitalité ou de l'épanouissement communautaire francophone au Canada passe par la capacitation des francophonies et leur convergence politique. Et c'est bien difficile dans le contexte fédéral canadien, parce que chacune de nos communautés est marquée par une réalité, une actualité provinciale. Hein, l'Ontario français ou la francophonie ontarienne est sommée en quelque sorte de se positionner par rapport à l'actualité ontarienne, et c'est pareil pour l'Acadie de l'Atlantique, etc., etc. Bon, vous comprenez que ce processus de dissociation, il est très fort au Canada, et ça nous empêche de faire communauté francophone à l'échelle canadienne. Voilà, donc... oui.
Toute la question. Est-ce qu'on peut terminer?
Oui, 10 secondes. Okay. La question, c'est d'embarquer les nouveaux arrivants dans ce processus du faire communauté. Et ça passe notamment par leur meilleure visibilisation, en particulier au niveau des instances de représentation politique. Il y a trop peu Et là, je parle surtout pour l'Acadie, trop peu de minorités visibles ou de personnes issues de la diversité qui sont élus municipaux, maires. Et là, je tiens à souligner l'élection du premier maire noir d'Acadie, qui est Kassim Doumbia, maire de Chipagan. Mais c'est quelque chose de nouveau, voilà. Et c'est quelque chose de trop rare. Donc, il faudrait, ça passe aussi par là. Ça passe par la visibilisation dans l'espace politique des personnes issues d'immigration.
Merci beaucoup. Marie-Ève, c'est à vous.
Ouais, mes collègues ont déjà dit plein de choses que je voulais mentionner. C'est merveilleux. J'avais envie, ouais, de recadrer un peu comme ça a été fait là, par Nathalie là, sur la question de la vitalité culturelle. Oui, bien sûr, mais si on la considère à partir d'une lunette de justice sociale et, comme le mentionnait Christophe aussi, à partir notamment là, de l'espace politique qui est occupé par les personnes immigrantes au sein des communautés francophones, mais aussi dans la visibilité des communautés francophones pour le reste du Canada, si on veut, là. Alors, je voulais partir peut-être de ça pour après ça aborder. J'ai mentionné tantôt l'initiative des communautés francophones accueillantes. Je participe à un projet où on est en train d'évaluer. C'est intéressant parce qu'on est en train d'évaluer en temps réel donc la portée de cette initiative-là, qui est une initiative, comme on disait, la portée vitalitaire et avec tous les enjeux que ça peut amener. L'idée déjà qu'on soit là, non pas à rebours en train de regarder ce qui s'est fait 5 ans passés, mais en train de regarder avec eux au moment présent. En tout cas, moi, je sens que ça a des effets parce que là, il y a des ajustements qui sont comme apportés en cours de route dans ce projet-là. Mais une dynamique quand même qu'on observe encore, c'est que malgré qu'on essaie de sortir, j'ai l'impression en tout cas que les politiques publiques, les programmes essaient de sortir là, de la ghettoisation là, des personnes immigrantes, donc de festival multiculturel, là, on essaie de sortir un petit peu de ça, mais c'est encore difficile, notamment parce que les organisateurs communautaires ont certains réflexes d'aller vers ça. Tu sais, on se dit, si on veut reconnaître la diversité culturelle, il faut faire un festival multiculturel, puis là, ben là, il y a des personnes immigrantes, puis là, on va faire un autre festival de tradition, puis là, il va y avoir plus de personnes nées au Canada, mettons. Là. En tout cas, fait que ce genre de réflexion est encore très présent, mais c'est pas juste comme... moi, je pense qu'il y a beaucoup un enjeu de difficulté, en fait, de planifier des activités qui permettent une harmonisation des cultures, c'est-à-dire... où il y a une expression de la diversité, mais qui va pas juste pour un groupe. Tu sais, même au niveau des entreprises, hein, si on a une épicerie africaine, ben est-ce que c'est juste les personnes africaines qui vont aller à cette épicerie-là, ou à quel point on est capable d'amener d'autres types de personnes dans ce genre d'entreprise-là, là? Fait que c'est un enjeu qui déborde largement la manière dont c'est financé, mais des fois, il y a quand même des dynamiques où la manière dont les ministères vont financer ces activités-là, parce qu'il faut avoir tant de personnes qui sont des résidents permanents, ou etc. Mais là, ça contraint finalement le maillage d'une personne qui est résidente permanente puis une personne qui est citoyenne canadienne, par exemple. Puis ça existe encore, là, puis ça devrait pas... exister, à mon avis, si on veut parler d'une réelle vitalité qui est inclusive de toutes les populations francophones, là. Alors ça, en tout cas, il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là, puis ben on l'a assez martelé, là, au niveau de la gouvernance des langues officielles, ça pourrait être amélioré. Puis je voulais revenir aussi sur un autre élément, c'était au niveau de l'éducation. Je sais, Nathalie, vous avez mentionné que ça se passait bien, mais nous, la recherche qu'on avait faite auprès des futurs enseignants, mais en fait des enseignants qui étaient issus de l'immigration, on remarquait en tout cas que la formation n'était pas tout à fait adaptée à une population importante, parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de personnes immigrantes qui vont aller suivre la formation pour être enseignants, ça fait qu'il n'était pas adapté nécessairement à ces personnes-là. Puis en plus, après ça, de parler de la diversité en salle de classe, ils n'étaient pas tout à fait bien préparés. Alors, ça, c'est un élément que nous, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, parce que c'est comme concret, là, tu sais, là, on peut aller travailler sur les programmes de formation, puis on peut améliorer cette prise en charge-là d'une redéfinition de soi qui va toujours être à travailler, là. Il n'y a pas de... de solutions miracles, mais on a besoin de s'en parler plus ouvertement. Puis dans le domaine de l'éducation, c'est que c'est tellement crucial de comment on est capable de se présenter comme communauté francophone, puis de comme les enfants, comment ils vont grandir, quel genre d'identité ils vont avoir, que il y a vraiment beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Puis nous, les provinces qu'on était allés voir, c'était la Colombie-Britannique, l'Ontario, puis la Nouvelle-Écosse. Puis même en Ontario, où la question de la diversité culturelle, on en parle depuis longtemps, puis il y a eu des super beaux progrès. Ça reste que même ceux qui sortent de la formation, ils disent « ouais, j'ai pas eu l'appui que je devais avoir ». Puis là, en salle de classe, même une personne née au Canada va dire « ouais, toute la notion de construction identitaire, oui, on a intégré la diversité, mais on a encore du chemin à faire pour en parler adéquatement ». Alors voilà, j'ai terminé comme ça.
Merci beaucoup, Marie-Ève. Et merci à vous pour cet échange d'idées tellement intéressant et très riche. Et on voit que nous avons déjà des questions dans le chat. Alors, Louisa, premièrement, j'aimerais inviter toutes les personnes qui assistent à cette discussion de partager avec les questions. Moi, peut-être je peux commencer avec des questions dans le chat et je vais demander à notre panéliste de répondre à ces questions. Alors, premièrement, la première question est le sommet des communautés de la FCFA de 2006, notre population, notre espace, notre gouvernance, notre influence, notre développement. Qu'est-ce qui a changé depuis? Marie-Ève.
Est-ce que, ouais, je peux peut-être intervenir. C'était intéressant parce que, je ne sais pas si Anne-Gilbert est encore là, mais on avait fait une étude de différents événements à ce moment-là, puis il me semble qu'on avait étudié le sommet des communautés francophones, et c'était encore la période où on parlait de la culture, de la francophonie canadienne, mais tu sais, dans une perspective plus ethnicisante là, sur la communauté francophone, les franco, mettons les franco-ontariens ou le franco-manitobain. Et là, tout à coup, là, il y avait de plus en plus de personnes immigrantes, puis les personnes sentaient qu'il fallait changer le vocabulaire. Puis là, c'est les premières fois qu'on... Ben, en tout cas, au début des années 2000, tu sais, là, qu'on intégrait plus, de manière plus importante la notion d'identité culturelle. Puisque là, on voulait pas laisser le mot culture de côté. Puis peu à peu, ben, on va parler juste d'identité, puis à côté, éventuellement, on va parler de diversité culturelle. Mais on va pas parler de la culture franco-ontarienne ou quelque chose comme ça. C'est vraiment des notions qui ont complètement été mises de côté depuis justement le début des années 2000 pour faire face là, à toute la nouvelle réalité là, de la proportion des personnes immigrantes qui devenait de plus en plus importante dans les communautés francophones. Fait qu'en tout cas, je voulais nommer en tout cas qu'il y a du vocabulaire qui a changé, mais évidemment, en tout cas, je n'irai pas plus loin, là, je vais laisser mes collègues s'ils veulent ajouter.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, peut-être on peut passer à la question posée par Gratien Allaire. Est-ce que les assemblées provinciales, comme franco-sasquoises et ontariennes, en particulier, ont amélioré ce faire communauté par une plus grande participation des personnes plutôt que des représentants d'organismes?
Je peux pas. Il faudrait aller directement là, voir les mesures, qu'est-ce qui ont changé dans les dernières années. Mais je sais que ils voulaient aller là, puis j'ai l'impression qu'il y a eu des petites mesures qui ont été prises, mais je pourrais pas les commenter.
Hein.
Aussi, je pense aussi que c'est une question qui est très, très spécifique. Et en tout cas, pour ma part, j'estime qu'une réponse dans ce cas-ci serait beaucoup plus subjective qu'objective. Ce serait beaucoup plus basé sur mon opinion personnelle que sur la réalité vraiment des éléments qui ont été mis en place. Ce que je peux mentionner, en tout cas, par rapport à une question comme celle-ci, c'est la nuance de dire la participation des personnes plutôt que des représentations d'organismes. Parce que là encore, ça ramène à la conversation qu'on a eue tout à l'heure où on dit on va représenter plusieurs organismes qui se retrouvent autour de la table, mais encore une fois, il y a les intérêts de chaque organisme qui est pris en considération dans les discussions et dans ce qui se passe. Et est-ce que nécessairement cet organisme-là a le contact facile avec les membres de la communauté pour avoir une influence réelle sur le terrain qui a beaucoup d'enjeux en fait sous-latent à une question comme celle-ci, d'où on voit souvent, oui, des représentants d'organismes, mais encore une fois, dans le côté sectoriel un peu des choses, c'est chaque organisme qui va avoir ses propres intérêts, dépendamment du type d'organisme que c'est et du type de communauté qu'il représente aussi, parce qu'il y a diverses communautés qui vont avoir divers organismes. Donc, encore une fois, on travaille avec des silos, il n'y a pas la place à la table pour tout le monde. Donc, on se retrouve à avoir quelques représentations, mais est-ce que c'est optimal dans le développement général de tout le monde? Point d'interrogation.
Je peux juste ajouter, si vous permettez,
Brian. Oui, certainement, oui.
C'est que je sais qu'il y a eu, c'est ça, c'est qu'il y a cette volonté dans certains milieux, donc de, parce que quand on a une personne qui est au niveau de la gouvernance, ben on va représenter par exemple les minorités ethnoculturelles, ou je vais représenter les femmes plutôt que je sois la directrice ou la présidente de l'association des femmes. Tu sais, il y a cet élément-là qui permet peut-être un petit peu plus de diversité, ou alors je suis juste une personne, un simple citoyen qui va dans la logique un petit peu plus de... mais là, je pense pas qu'on est là. Mais tu sais, à la limite, tirer au hasard un citoyen francophone puis de l'amener là, participer à la gouvernance communautaire de démocratie plus horizontale, plus de type... antique en tout cas, mais cette dynamique-là permet d'éviter qu'il y ait peut-être trop de personnes blanches autour de la table. C'était une dynamique qui était importante, mais là maintenant, par exemple, dans la communauté française-coise, il y a beaucoup de directions d'organismes qui sont occupées par des personnes issues de l'immigration. Alors la question peut-être que dans certains cas, elle se pose moins, mais des fois, ça peut être une mesure de discrimination positive, en tout cas, qui est employée, qui est intéressante.
Christophe.
Oui, en fait, la question est très intéressante, mais elle est compliquée parce que on est, je pense, au Canada face à un éparpillement de la représentation des francophones en situation minoritaire. Et c'est un éparpillement qui est assez problématique dans le sens où on a des organismes communautaires qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent pour présenter un certain intérêt communautaire et qui dispose d'une certaine légitimité de par les actions qu'ils posent, que ces organismes posent. Il y a aussi ensuite la communauté elle-même, dit autrement l'opinion publique francophone, on va l'appeler comme ça, à défaut d'autre chose, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'instance de représentation de la communauté francophone en tant que telle, qui dispose aussi d'une certaine légitimité. On parle des Acadiens, par exemple. Bon, ben voilà, là aussi, on porte parfois une parole qui est désignée comme la parole des Acadiens. Et puis, il y a un troisième échelon de représentation, c'est la représentation, cette fois, portée par les représentants politiques, formels, les députés qu'on envoie à Fredericton ou à Ottawa, et qui sont censés porter la parole et représenter parfois l'Acadie. Et il y a ces trois représentations qui sont légitimes, mais qui rentrent en concurrence l'une avec l'autre. Quand, lorsque, par exemple, un organisme acadien décide d'être un peu plus contestataire, il va être très vite remis en question par un certain nombre d'organismes, d'autres organismes qui vont dire non, nous, on est plus conciliants, plus collaborateurs avec le gouvernement fédéral, on n'est pas d'accord, il y a un désaccord qui va s'instaurer. Là aussi, l'opinion publique sera partagée par rapport à tel ou tel enjeu. Et puis, les représentants à l'Assemblée législative vont dire c'est pas vous qui représentez l'Acadie, c'est nous qui sommes élus qui représentons l'Acadie. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'éparpillement de la représentation qui est extrêmement problématique pour faire valoir une parole ou une volonté, entre guillemets, générale de la part de nos communautés francophones. C'est quasiment mission impossible.
Merci. Nous avons une autre question qui vient du chat. Et cette question vient de Farah Hafsoui. Question. Merci beaucoup pour ces présentations. Nous avons beaucoup redéfini les enjeux, les défis. C'est extrêmement intéressant. Ma question est, comment créer une stratégie intégrée, structurante, avec tout ce qu'on a dit? Là maintenant, je ne veux pas rester au théorique, je veux un outil concret pour un outil concret que je peux utiliser maintenant. Pourrait-on créer ensemble dans une autre rencontre une liste de contrôle qui orientait chaque action décidée par une organisation ou autre chose? Est-ce que ça existe? Je veux juste une pratico-pratique, même si j'adhère totalement à ce que se dit ici. Alors, c'est une question tellement qui pose un défi, c'est certain.
Si je peux me permettre, c'est sûr qu'il n'y a pas en ce moment d'exemple parfait. On s'entend. À l'échelle du pays. Mais je pense qu'il y a quand même des bonnes pistes de réflexion dans certaines provinces. Et je pense que c'est là où, pour ne pas réinventer la roue, c'est partir de ce qui existe déjà et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour l'améliorer. Je prends un exemple simple, celui de la politique d'aménagement linguistique et culturel du Nouveau-Brunswick, qui l'Ontario a essayé de suivre le pas et d'avoir une politique d'aménagement linguistique et culturel. Ce que moi, j'aimais bien de cette politique d'aménagement linguistique et culturel, le Nouveau-Brunswick, c'était déjà de prendre en considération que, un peu ce que je mentionnais quand je dis une culture se partage par le biais d'une langue, mais une langue se partage aussi par le biais d'une culture. Donc, dans cette conversation-là, d'avoir plusieurs personnes autour de la table et d'avoir une conversation générale où on est capable d'avoir une initiative qui est un peu transversale. On se dit, c'est pas juste le présent, mais c'est aussi l'épanouissement des générations futures. Et on part même de la petite enfance déjà jusqu'aux communautés. Et on essaie d'intégrer un peu tout le monde qui sont autour de la table et qui ont un rôle à jouer dans le dynamisme de la communauté, qui ont un rôle à jouer dans la transmission de la langue, dans la transmission de la culture acadienne et francophone, par exemple, et qui se retrouvent ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut travailler de pair. Comment est-ce qu'on peut travailler de pair, ministère de l'Éducation, la communauté, les différentes parties autour de la table, les organismes, les jeunes, les parents, les écoles, les milieux éducatifs, les centres communautaires, comment est-ce qu'on peut travailler tous ensemble vraiment pour valoriser notre culture, pour partager notre culture? Et je pense que c'est des éléments intéressants dans lorsqu'on parle de stratégie concrète. De par exemple, en Ontario, lorsque l'Ontario a commencé à avoir cette réflexion qui, après, hop, disparu, c'est de comprendre déjà le rôle, l'enjeu et le rôle de chaque partie autour de cet enjeu-là. Si, par exemple, au niveau de la culture, en Ontario, on a la deuxième plus grande population francophone au Canada, tout le monde le sait, on a plus de 400 écoles francophones en Ontario qui achètent des spectacles, qui ont un financement, quoique minime, très minime, pour acheter des spectacles et les faire venir dans les écoles. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'intéressant selon moi? C'est que dans cette stratégie de dire, ben, une école qui reçoit 1 500 $ l'année pour faire venir un spectacle, on s'entend déjà que ses capacités du type de spectacle qu'il va recevoir sont minimes. Soyons francs. Ce n'est pas un full band qu'il va recevoir. Ça va être quelqu'un qui joue de la guitare, ça va être un humoriste. Donc déjà là, qu'est-ce qu'on présente à nos jeunes comme étant la culture francophone? Est-ce qu'on est capable de convaincre le gouvernement de dire « mais non, on a besoin de financer justement ça » ou encore nos centres communautaires qui n'ont pas nécessairement les capacités d'accueillir certains spectacles. Donc un peu en Ontario francophone, on va se considérer comme étant le petit frère pauvre un peu de la culture francophone à travers le pays. Donc lorsqu'on se retrouve dans un événement avec des artistes qui viennent du Québec qui sont subventionnés à bloc, on se retrouve un peu comme étant le petit frère pauvre qui n'a pas fait de mise en scène avant, qui n'a pas eu la chance de travailler son show et qui se retrouve un peu inadéquat dans cette situation-là. Donc, pour moi, des stratégies comme celle-là, où est-ce qu'on est capable d'avoir le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture s'asseoir ensemble pour discuter, pour mettre en place des stratégies, comprendre parce que, et faire comprendre que ben, la culture a un rôle essentiel dans le développement identitaire de nos jeunes francophones. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune francophone, lorsqu'il sort de l'école, va vouloir continuer à consommer de la musique ou de l'art, du théâtre, du cinéma en français? comment est-ce qu'on a été capable d'instaurer ça et d'essayer de trouver des ponts, en fait. Et quand je parlais de stratégie intégrée, pour moi, c'est un peu ça de dire, ou par exemple, quand je parle de la cité francophone, qui se retrouve à plusieurs organismes francophones dans le même immeuble et qui peut entraider, partager des ressources, partager des bonnes pratiques et vraiment créer quelque chose de beaucoup plus englobant dans cette idée de créer une communauté, vraiment une communauté, une stratégie globale, un peu, si on peut le voir, dans, comme Nathalie le mentionnait, pour dire, mais c'est comment est-ce qu'on crée une communauté?